Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, je vous propose de découvrir les premières pages du magnifique roman de Corinne Royer, Pleine Terre, paru en 2021 aux éditions Actes Sud. C'était le jour, mais il lui semblait que la nuit ne finirait plus. Allongée à même la sente où courait une végétation touffue, il avait ouvert les yeux au premier cri des passereaux. À présent, l'aube grandissait. Il ne s'en imprégnait pas, il restait tout entier dans l'ombre. Son bassin était si lourdement ancré au sol que les fougères écrasées sous le sacrum avaient rendu une sève huileuse qui lui inondait les reins. Depuis combien d'années ne s'était-il pas éveillé ainsi, à l'aplomb du ciel, dans la clarté encore laiteuse, entre les plis charnus de la terre? Il fallait sans doute remonter aux fantaisies de l'adolescence, autant dire un sacré bail. Face tournée vers les grands frênes, pieds parfaitement à plat, il ne bougeait pas. Ses jambes étaient positionnées de telle manière que s'il avait relevé la nuque, il n'aurait rien vu du paysage qui se déployait devant lui. Seulement la masse de ses cuisses et les deux sphères de ses genoux. Il referma les yeux. Le verre tenace qui l'entourait, il n'avait de toute façon pas le courage de le regarder. C'eût été comme s'extraire d'un sommeil de momie. Autant se découdre les paupières ou plus résolument tailler dedans. En tout cas, il ne se souvenait pas de s'être assoupi les jambes fléchies. Il ne se rappelait pas non plus s'être placé torse offert aux ténèbres, les deux omoplates au contact de la pente. Jacques Bonhomme avait toujours dormi sur le côté, le gauche de préférence, sa grande carcasse ramassée en position fœtale. Souvent, lors des repas dominicaux, sa mère lui répétait qu'il ne deviendrait un homme que lorsqu'il serait capable de s'endormir sur le dos. Elle s'enquérait régulièrement de son rituel nocturne, s'amusant de savoir qu'aujourd'hui encore, seule la posture compacte du fœtus favorisait son repos et, par facétie ou plus certainement par affection, elle persistait à l'appeler « mon petit garçon », là où la majorité des femmes disaient « mon fils » depuis longtemps. Il était l'unique représentant de la gent masculine sur une lignée de 3 enfants. Au sein d'une famille où la vocation d'agriculteur se transmettait comme une providence, cette singularité valait bien les considérations particulières d'une mère, même tendrement moqueuse. Avant de s'accorder une halte, il avait marché dans l'obscurité des bois, 1 heure, 2 heures peut-être. Sa lucidité était encore troublée de la matière qui habite le temps lent de la nuit et s'oppose à l'idée même de mouvement, brouille la perception de l'espace, désoriente les corps et le cours ordinaire des pensées. Il était bel et bien éveillé, mais ses impressions se déplaçaient en crabe dans son esprit. Impossible d'en saisir une qui fila à peu près droit. Sa dernière échappée sous les étoiles, avant celle-ci, il ne pouvait décidément pas la dater, ni même définir avec qui elle avait eu lieu. Avec Polo, avec Arnaud ou encore avec la fille Mercier? Ça n'avait aucune importance et c'était de surcroît forcément différent. Cette fois, il était seul et il s'agissait d'une fuite, pas d'une joyeuse équipée. Rien ne témoignait de son état de conscience, ni frissons, ni mouvement pour éloigner les insectes qui s'agitaient déjà dans l'air humide. Il se tenait aussi immobile qu'une pierre scellée à son mortier. Seul remuait dans un recoin de sa tête la voix mystérieuse qu'il avait surnommée « la petite Constance » parce qu'elle venait chaque jour glisser des mots mutins à son oreille avec un même débit nerveux. « Laisse aller tes pensées, colosse. Laisse-les courir librement. Donne-leur du lest. Il te faut en trouver de grandes à présent. De grandes pensées dans lesquelles répandre ton grand corps de colosse. Tout entier dans tes grandes pensées. Essaye encore. Ça vient, c'est ça. Tu t'élèves. T'es léger comme une plume, colosse. Tu t'élèves si haut que le monde disparaît. » Il ne bougeait toujours pas. Il ne concevait pas encore la dissolution du monde. Il était de toute manière trop hébété pour l'envisager. Ses mains étaient ouvertes sur son visage. Il sentait l'odeur incrustée à ses doigts, le parfum aigre des herbacées au creux desquelles, ça, il s'en souvenait parfaitement, il avait fini par se terrer, accroupi d'abord, agenouillé ensuite, sursautant au carillonnement de son cœur comme un troupier à l'écho d'un clairon. Quel raffut, quel boucan de tous les diables là-dedans! Il aurait bien frappé du poing quelque part au niveau de la cage thoracique, mais ce mouvement non plus, il ne se sentait pas le courage de l'initier. Dans sa poitrine, le sang sonnait encore la charge. Pourtant, outre ce flux précipité, il n'avait rien éprouvé qui pût s'apparenter à une sensation de peur. Il n'avait pas transpiré, il n'avait pas tremblé, il n'avait pas crié. Il n'avait pas même hésité sur la conduite à suivre. Il avait fait ce qu'il devait faire avec l'évidence de la seule échappatoire possible. Il était parti, il avait quitté la ferme des Combettes. Il s'était affranchi des abrutissements générés par des années d'espérance plus ou moins passives, se sevrant sans préavis des promesses de jours meilleurs administrées comme des sédatifs. Il avait dit non. Il avait refusé de se laisser à nouveau endormir par le refrain habituel. Les allègements de cotisations, les crédits d'impôt, les aides aux calamités, les primes à l'hectare, les subventions à l'investissement, à la formation, à l'exportation. Il s'était détourné d'un système où il ne trouvait plus sa place, ni lui, ni tous ceux animés du seul attachement à la terre et aux bêtes. Il ne voulait plus être bercé par les plans de compétitivité et d'adaptation. La politique agricole commune, la course au rendement, la sacralisation du modèle intensif, la surexploitation et les monocultures de masse qui rongeaient les terres, polluaient les eaux, empoisonnaient les hommes, éradiquaient les petits paysans. Il s'était toujours méfié de l'agriculture productiviste, ces élevages concentrés, spécialisés, générant endettement et épidémie, favorisant l'agro-industrie avec des tonnes de tourteaux de soja distribués à un bétail fait pour pâturer dans les champs. Il était persuadé que cette modernité était dépassée, qu'elle était même le contraire du progrès. Il affirmait que, pour soigner l'avenir, les agriculteurs devaient inventer des possibles qui panseraient le cœur des hommes en même temps que les plaies du vivant. Il l'avait déclaré à maintes reprises, en son nom et en celui des disparus qui remplissaient les colonnes nécrologiques des journaux. Il fallait que l'hécatombe cesse. On ne pouvait plus ignorer le comptage macabre des éleveurs terrassés par le désespoir. Ils devaient pouvoir vivre de leur travail, sans assistanat ni mise sous tutelle, sans ce matraquage de normes seulement adaptées aux grandes exploitations. Il s'était exprimé dans la presse. Il avait défendu ses positions lors de réunions syndicales. Il avait été porte-parole de la Confédération paysanne. Très tôt, avant même les premiers contrôles administratifs à la ferme des Combettes et les sanctions qui avaient suivi, il s'était demandé s'il saurait parler pour les autres, s'il saurait dire l'humiliation et la peine avec des phrases assez aiguisées pour trancher le mal à la racine. et la dépossession et la honte et l'affront fait aux ancêtres qui avaient transmis des terres fertiles, l'or vert devenu plomb. Ils savaient que ce combat n'était pas uniquement sien, ils étaient nombreux à le charrier dans les sillons de leurs veines. Il en était certain, le jour viendrait où la colère épaissirait le sang de toute une communauté. Elle emboliserait le calme et la patience qui transformaient les campagnes en nécropoles silencieuses. Il était parti gorgé de cette certitude, il faudrait lutter encore et il en serait. Dans les suites immédiates de son départ, il s'était senti non pas indemne, mais libéré. Il avait refusé de se rendre à l'absurdité du monde. Il avait recouvré son libre arbitre. Voilà pourquoi il n'avait pas eu peur. Pourquoi, allongé sur les fougères dans le matin tout neuf, il n'avait toujours pas peur. Ce qui cognait furieusement à ses tempes n'était rien d'autre que la conscience soudaine d'une condition jusqu'alors étrangère. Lorsqu'il étira son dos, puis rassembla sa large stature en position assise, ce jour de mai à peine naissant, Jacques Bonhomme était désormais un fugitif. Il ne savait pas que faire de cet état nouveau, mais sur ses doigts, quelque chose d'inconnu déjà se formait. Il le vit à la façon hâtive dont il resserra les lacets de sa chaussure. À moins que ce ne fût sa chaussure, qui ne reconnaissait pas l'empressement de ses doigts, choisissant alors une façon inhabituelle de se laisser lasser. Il se dit qu'il n'était peut-être plus que ça, un homme pressé qui ressentait de plein fouet les frôlements du temps. Il plissa les yeux et ricana bêtement. « Je suis parti. Je suis vraiment parti. » Une à une, des pressions se libéraient à l'intérieur de son corps, des relâchements aux puissances animales qui lui donnaient le sentiment de perdre une part de son humanité. Ses intentions lui semblaient tout à coup moins fermes, le bien fondé de sa retraite presque douteux. Coupé des siens, ses sœurs et ses parents, de ses hectares et de son cheptel, il se sentait l'âme pauvre. Sans doute était-ce le prix à payer pour abroger le traitement douloureux que lui avait imposé son appartenance à la société des hommes et l'obstination qu'il avait déployée à y tenir son rang. Il supposait que sur ses lèvres, désormais, aucune parole audible ne ferait plus jamais sens. Il lui faudrait alors s'habituer à l'agitation muette de son crâne. Tout ne serait plus que remous de cervelle, craquement d'os, pulsations et nerfs qui se tendent. Voilà ce à quoi il se préparait, au silence extérieur et au grand remaniement intérieur. Car aussi longtemps que durerait sa fuite, il serait confronté à la seule compagnie de l'individu qu'il était devenu, un être qui devait soigner ses blessures et tempérer sa colère avant de retourner calmement au front de la bataille. Lorsqu'il serait parvenu à cet apaisement, il finirait par réguler les accès de confusion qui lui ébranlaient le thorax. Il finirait par triompher du bannissement de la solitude et du carillonnement de son cœur. Il pourrait chaque soir s'endormir sur le dos comme un homme.
Oh, je gorge, ouvre ta gorge. Viens manger du pain dans la main de celui qui t'aime. Ouvre tout grand les ailes et vole ainsi au-dessus des moulins de la vie, 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 de la vie. De la vie, 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 de la vie. monter en haut de l'escalier du dernier des paliers alignés de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie.
À voix haute, Meredith Ledez.
La veille, au volant de la petite Volvo, il avait facilement semé ses poursuivants. Dès les premiers kilomètres, peu de temps après avoir quitté les combettes, il s'était écarté de la nationale pour emprunter les routes communales. Il avait roulé une vingtaine de minutes, puis il s'était engagé sur les pistes forestières, persuadé que nul ne s'aventurerait sur ces voies peu carrossables qui se ressemblaient toutes. Il avait caché la voiture derrière le fortin formé de l'écroulement d'une ancienne maison de garde forestier, avait retiré la batterie de son téléphone pour ne pas être localisé, et il s'était enfoncé dans les bois. À ce moment-là, les ombres bleu marine qu'il avait prises en chasse étaient déjà à la traîne. Peut-être avait-elle d'ailleurs fait demi-tour, lasse de cette course-poursuite, laissant ainsi filer une si belle prise. Un type à la carrure impressionnante, large et haute, avec, sur le coup puissant, un visage au regard pierreux. Et sur la bouche, les mots insensés qu'il avait jetés à la figure des ombres. « Les bêtes sont le Christ ». Une phrase comme une glaire qui avait maculé les uniformes, les écussons et les fourreaux. « Les bêtes sont le Christ !» Voilà ce qu'il avait craché Jacques Bonhomme avant de fuir, avant d'entrer dans la nuit qui ne finirait plus. De toute évidence, les paroles d'un fou. Un illuminé qu'on ne ramènerait sans doute pas à la raison, mais qu'on reconduirait sur le droit chemin, celui de l'ordre et de l'asservissement. En attendant, il courait toujours. Il ne s'était arrêté que quelques heures au plus noir de la nuit, ni vraiment fatigué, ni vraiment assoiffé, seulement fourbu par l'incrédulité qui engourdissait ses membres. Il s'était agenouillé sur les herbes, les muscles et l'esprit figés dans cette réalité inconcevable. La ferme des Combettes existait encore, mais il n'en était plus. Comment en était-il arrivé là ? De quoi s'était-il vraiment rendu coupable ? Pourquoi s'était-il mué en une bête traquée, contrainte à se réfugier dans les bois ? Et avant ça, pourquoi était-il devenu un paysan acculé, condamné à se voir soustraire son troupeau. Car Jacques Bonhomme avait eu un cheptel et des terres. Il avait eu un endroit où chaque aurore et chaque crépuscule, il se sentait chez lui au point de se confondre avec le jour, avec la nuit. Qu'avait-il esquivé qu'il ne fût capable d'affronter? Qui avait-il réellement fui? Les fonctionnaires d'État, les ombres bleues marines, les blouses blanches auxquelles on avait voulu le livrer en prétextant qu'il avait perdu la raison? Quelle blague, pensa-t-il. Il regarda le jour se lever, la rampe festonnée des premiers rayons de soleil qui grimpaient sur les frênes et jetaient aux écorces des éclats de bronze. On aurait dit les dos polis d'une armée de statues lancées à l'assaut des feuillages. Il regarda ses bras, si longs, si forts. Il n'avait plus de bétail à choyer, plus de mamelles à couvrir de baume, plus de pissa à remuer. Il venait d'avoir 36 ans, et pour la première fois, ses membres supérieurs étaient tant inutiles qu'il lui semblait les sentir se détacher de son tronc. L'un après l'autre, il les toucha. Il s'étonna de les trouver là, à leur place, disposés aux tractions et aux mouvements, doués d'une énergie qui ne demandait qu'à se déployer. Puis, il resta à nouveau immobile, longtemps, regardant le jour se lever, regardant ses bras inutiles. Il demeura ainsi, le dos rond, les épaules avachies, légèrement penché vers l'avant, hermétique à la ferveur qui montait des forêts, car rien ne coulait en lui, ni la sève des arbres, ni le piaillement des oiseaux. Rien que cette pensée neuve et obsédante. Il était parti, il avait quitté la ferme des Combettes. Là-bas au domaine, c'était pourtant le foisonnement éclatant du printemps. Semaine après semaine, le vert des prairies s'était intensifié, le troupeau s'étoffait des dernières mises bas, les veaux tout juste extraits des ventres batifolaient sur leurs pattes encore frêles, titubant de maladresse et de l'orgie des tétés. Lorsqu'ils se couchaient en cercle dans les prés, ils ressemblaient à une brassée de gros champignons que la rosée irradiait. Dès le lever du jour, les passereaux agitaient les buissons, envahissaient les haies. Les milans, les buses, les cresserelles brassaient le ciel. Les retardataires répétaient la grande cérémonie des parades, les ailes chatoyées d'ocre, de rouge vif, de gris argenté. Les plumes se hérissaient sur les têtes bariolées, coups tendus comme des arcs. Ça sifflait, ça roucoulait, ça caquetait, ça jacassait, ça pépiait, et tout ce tintamarre, toute cette symphonie nuptiale, roulait dans l'air pur comme un immense tambour ardent. Là-bas, aux Combettes, il pouvait voir, entendre, sentir. Il pouvait se mouvoir dans un monde qui était sien, calibré à sa mesure, un temps et un espace où chaque geste faisait sens, contribuait à l'ensemencement, aux récoltes, aux naissances, se calquait sur l'enchaînement réglé des saisons. Là-bas, il pouvait tout reconnaître sans rien avoir à nommer. Mais ici, au fond des bois, alors qu'il n'était pas à plus de 20 kilomètres de la ferme, il lui fallait un temps infini pour identifier la moindre végétation, le moindre vol par-dessus les cimes. Il devait activer son cortex avec obstination, et après que la chose avait longuement cheminé dans son esprit, il pouvait enfin la nommer, puis se la figurer avec certitude. Les frênes avaient cessé d'être intuitivement des frênes. Les bondrées avaient cessé d'être intuitivement des bondrées. Comme il avait lui-même cessé d'être intuitivement Jacques Bonhomme. Il étira son dos, fit jouer une à une ses articulations. D'une profonde inspiration, il absorba une longue goulée d'air. Il se mit en marche, sans but précis, sans autre objectif que s'enfoncer un peu plus loin dans les forêts. Une fois droit, planté à la verticale, porté par ses jambes solides, il paraissait plus imposant encore. Ses épaules se balançaient dans un va-et-vient régulier qui réglait l'amplitude de ses pas. Les hanches s'accordaient au mouvement, souple, assez volontaire pour entraîner l'engagement du bassin lorsqu'il s'agissait de contourner les souches des arbres déracinés. Il pénétra dans une parcelle éclaircie par les coupes de bois et soudain, tout le haut du corps échancra le ciel. Au fur et à mesure de son avancée, sa bouche buvait les nuages comme un animal s'abreuve à une cascade. Sous les halos de lumière qui perçaient les quelques feuillus encore debout, on voyait briller dans sa chevelure les copeaux presque blancs glanés au fil de son cheminement parmi les grumes débitées. De plus en plus nombreux, ils se fixaient à ses cheveux, ne s'en détachaient plus, des étoiles. Une nuée d'étoiles en plein jour suspendues à son front jusqu'au firmament de son crâne. Il avait beau essayer de s'en débarrasser en les balayant de la main, rien n'y faisait. Les copeaux restaient agrippés à ce colosse bâti à l'aune des bûcherons qui avaient tronçonné les arbres. Il jeta un coup d'œil à sa montre, elle indiquait 6h50, mais les aiguilles étaient figées. Il ignorait depuis quand le temps s'était ainsi arrêté. À la ferme, il se référait rarement à la petite toquante argentée qu'il ne portait que par habitude, car il savait toujours l'heure qu'il était. Les tâches qui ponctuaient sa journée suffisaient à lui donner la mesure de l'avancée du jour. Il tapota de l'index le cadran circulaire, secoua le poignet, regarda à nouveau. La course des minutes et des heures avait bel et bien cessé. Il pensa que le temps ne lui était peut-être plus compté, ou qu'il était entré dans une temporalité si singulière qu'aucune montre n'était capable de la restituer. Bien que rien ne le pressât, il força le pas. Le rythme de ses pensées aussi s'accéléra, toute une marée de questions déferlant contre sa boîte crânienne, des interrogations par vagues et aucune réponse pour les repousser. Qui nourrirait le chien en son absence? Et le troupeau, s'il était encore là-bas aux combettes, qui veillerait sur lui? Et le vieux Ferguson, quelqu'un l'avait-il mis à l'abri? Quelqu'un l'avait-il garé dans le hangar à tracteur? Et les fissures dans la toiture de la chambre qui avaient déjà fait gondoler la couverture de ses livres, mettant en péril ses meilleurs compagnons de papier, quelqu'un prendrait-il l'initiative de les colmater? Et ses deux sœurs, qui n'avaient jamais cessé d'être à ses côtés, comment leur dire de ne pas se faire un sang d'encre? Et les parents? Comment leur faire savoir que leur fils serait digne de leur confiance? Qu'il sauverait sa peau et son honneur, que son départ était le seul moyen de les sauver? Et tous ceux qui le montreraient du doigt, ceux qui verraient désormais sur son visage la marque des hors-la-loi et des parias, comment leur faire entendre que les lois sont faites pour les lâches et les règles pour les braves? Qu'avait-il fait de plus répréhensible, au fond, que de consentir aux règles que lui avait dictées son statut de paysan? Car il n'avait jamais rien demandé qui ne fût acceptable. Seulement le droit de nourrir ses bêtes, d'ensemencer ses terres. Comment leur dire, leur faire savoir, leur faire entendre? Encore ça cognait dans sa poitrine. Encore il se répétait à voix basse, « Je suis parti. » Jacques Bonhomme est parti. Alors, ce furent des ruminations sans fin, la bouche pleine de paroles amères. Dans quelle redoutable spirale s'était-il laissé prendre? Était-il vraiment inapte à changer le monde? Pourquoi vouloir le faire passer pour un fou? Pourquoi le poursuivre comme un criminel? Et de ses bras inutiles, à nouveau, il tentait de chasser les copeaux de bois accrochés à ses cheveux. Lorsqu'il parvint à l'extrémité de la parcelle, les nuages commençaient à s'agglutiner vers l'ouest. Les masses dessinaient une horde de monstres fabuleux, des sphinx, des minotaures et autres créatures bicéphales à l'échine hérissée d'une toison gris-noir qui flottait dans l'éther. Puis tout se rassembla en une guivre gigantesque dont la queue balaya au loin la cime des grands bois. Le vent redoubla. Il eut à peine le temps de sentir les premières gouttes que déjà c'était un déluge. En moins d'une minute, il fut rincé. La pluie lui glaçait le sang, transperçait son blouson, plaquait son t-shirt au torse musculeux. Il avait rarement vu pareil orage aux premières heures de la journée. Il resta un moment étourdi, esselé au milieu du déluge. Il se tenait droit, la tête rejetée en arrière, les bras écartés du corps, les paumes ouvertes. Les eaux du ciel entraient en lui comme une marée. C'était Pleine Terre, un roman de Corinne Royer paru aux éditions Actes Sud en 2021. Cette émission était réalisée, comme toujours, par Frédéric Guyon et vous avez pu entendre comme interlude musical une chanson de Gérard Manset, Rouge-Gorge, extraite de l'album Il voyage en solitaire. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.